serpentine et de la peinture et de l'apparence historique. Donc quelqu'un comme Delatour ou Caravage vont faire des peintures qui seraient presque acceptables par des protestants. Hein, quand on voit par exemple, tiens, parce que j'y suis, je fais quand on voit par exemple cette éducation de Marie, parce qu'en fait l'idée c'est ça, c'est Marie apprenant à lire. Marie, mère de Jésus, qui apprend à lire avec sa mère Anne. C'est tout à fait dans l'esprit, on va dire, protestant, dès que c'est une peinture catholique, puisqu'il y a l'idée d'abord que on retrouve les personnages sacrés d'origine. Les protestants critiquaient le culte des saints, la multitude des saints. Critiquaient la séduction par une peinture avec des habits, des choses comme ça. Là, vous avez une sorte d'austérité, hein, donc quelque chose qui n'est pas en train de séduire, et même, vous avez la mélancolie incroyable de Delatour. Alors, il faut savoir que Delatour, il est lorrain. Je fais une transition, tout à l'heure, on va aussi des lorrains. Delatour est lorrain, et ils sont proches aussi des pays à forte idée protestante. Et donc, cette idée chez Delatour, c'est qu'en fait, ce qu'on voit n'a pas de valeur. Ce qu'on voit n'a pas de valeur, parce que la lumière, elle disparaît. La lumière, c'est pas Dieu, c'est un éclairage provisoire de la vie sur Terre. Et donc, la peinture de Delatour, elle est presque acceptable par les élites protestantes qui critiquaient la séduction, la joliesse, les morceaux de bravoure, la séduction aussi des habits, des couleurs, la richesse. Là, on est dans une domaine de pauvreté, etc. Et on est dans une simplicité, dans un dépouillement total. C'est une espèce d'iconoclasme, et chez Delatour, presque toujours, vous avez cette idée que ce que l'on voit, c'est vraiment en attendant la mort, mais la pénombre chez Delatour, c'est positif, la pénombre, c'est Dieu. Et en fait, on est dans l'attente de Dieu, de retourner à Dieu. Je vous en prie, je fais une petite transition, parce que je sais que là, les horaires sont un peu difficiles. Donc, le XVIIe siècle voit des réactions. Alors, on verra tout à l'heure les plafonds peints baroques, qui eux sont l'excès inverse. Vous allez avoir des catholiques qui vont réagir. Donc, l'excès de différence. Par exemple, justement, pourquoi j'ai ça ? C'est pas ça. La mère. Donc, Jordaens, Rubens, eux sont des flamands catholiques. Vous avez les flamands qui vont devenir protestants, hollandais, etc. Vermeer, donc il n'y a plus de peinture religieuse. Et vous avez des Flandres catholiques, qui vont rester catholiques, et qui, elles, vont jouer au contraire sur une sorte d'excès, dans tous les sens du terme, puisqu'il y a cette idée de profiter. Hein, s'il y a un espace, si on doute du monde, si on doute de beaucoup de choses, eh bien on se rassure, par exemple, par l'agitation, par la nourriture, par les biens de ce monde, etc. Et quelqu'un comme Jordaens, effectivement, est totalement dans l'excès. Donc vous avez d'un côté le dépouillement de Delatour, et de l'autre, les excès de Jordaens, on verra, sur le corps. D'un côté, vous avez un corps qui semble être de cire et qui disparaît, celui de Delatour, qui est presque translucide, donc il n'a pas de chair, en fait. Et vous avez au contraire Carnevale, la chair vaut quelque chose, le roi de Carnaval, avec Jordaens, qui sont exactement contemporains et pas très loin. Hein. Alors je vais développer un petit peu sur le roi de Carnaval, mais si vous voulez, et entre deux, vous avez des gens comme Velázquez ou Vermeer, qui essaient d'établir un équilibre. C'est pour ça qu'on peut parler d'artistes classiques. Donc si vous voulez, entre le baroque un petit peu mélancolique, terre obscure, le baroque lyrique de l'excès, vous avez les classiques, c'est ceux qui vont essayer d'établir un rapport harmonieux, si possible, entre la terre et le ciel, le corps, l'esprit, le proche, le loin, etc. Vous voyez, c'est vraiment assez simple. Et puis vous avez aussi l'autre élément au XVIIe siècle qui est important, c'est la commande. Hein, puisqu'on a vu en Hollande, c'est plus ni moins une commande de prince ou d'église, c'est plus une commande privée. Hein, donc là, vous avez aussi une liberté qui fait qu'on est plus obligé. On avait déjà commencé à voir ça avec Bruegel. Hein, et Bruegel, c'est juste 100 ans avant. Hein, donc, vous voyez, Bruegel est déjà aussi un peintre profane, laïque, philosophe. Donc vous avez aussi une peinture qui s'échappe un petit peu aussi des doctrines, des commandes, des obligations ou de la pression du public. Hein, cette liberté. Alors, quand on voit Jordaens, vous voyez qu'ici, tout est rempli délibérément. le corps, l'espace de la peinture est saturé. Alors vous avez vu, c'est assez drôle par rapport à Vermeer, c'est qu'on a à peu près le même dispositif au niveau de l'espace, mais alors là, au lieu de jouer sur le vide, hein, et que ce vide n'est pas vide en fait, il est plein de lumière, il est plein d'idées, là c'est le corps qui remplit tout. Et le corps qui remplit tout, il faut remplir aussi le corps. Et le corps il remplit, mais en plus, c'est un lieu de passage le corps. Il se remplit et il se vide. Il déborde, le sein déborde, les cris et les hurlements, alors que chez Vermeer c'est la calme, et chez. Là, il n'y a pas de la bouche entrouverte, et chez de la tour, c'est au contraire mutique. Les bouches sont fermées. Le corps est translucide. Là, au contraire, c'est l'idée que le corps est surtout de lieu de passage qui se gonfle et qui se vide. Hein, c'est lui qui est traversé par des énergies, jusque dans le grotesque. Hein, y compris celui-ci qui vomit, hein, ceux qui s'embrassent, ceux qui fument la pipe, donc qui se remplissent de fumée et qui la recrachent. Vous avez aussi le vin qui remplit, etc. Vous avez ce qu'on appelle le roi des fèves. Alors là, c'est un peu grossier peut-être, mais les fèves, c'est un aliment dit venteux, donc qui gonfle la panse. Hein, parce que c'est le roi de carnaval, et carnaval c'est la chair qui vaut quelque chose, hein, carnaval, etc. Donc c'est une sorte délibérément de fuite en avant autour du corps. Hein. Et là, c'est typique. Et vous avez y compris, ce qu'on le voit ici, l'instrument de musique privilégié, ce sera presque caricatural. Alors là, vous avez vu, c'est pas, il n'a pas fait ça une fois, hein, il a fait ça 10 fois. Le ciel du roi, c'est le roi bois ou le roi de carnaval. Il y a aussi une dimension, c'est la dimension populaire. Parce que là, effectivement, le peuple est en fait le corps social, tout simplement. C'est le corps, en fait, le peuple. Il y a d'un côté, on avait vu avec Velázquez, puisqu'il y avait le corps du peuple, mais au travail, et puis vous aviez l'esprit un petit peu du divin, du royal, etc. Il y avait une sorte de rapport, fascination entre les deux. Là, vous avez le corps social et le corps physique, le corps des paysans, le corps des... etc., qui est vraiment du côté de la chair, mais de la vie, hein, et qui a besoin de rien d'autre. Donc vous avez une affirmation assez étonnante. Alors évidemment, la cornemuse, c'est vraiment la métaphore de la panse, c'est une panse, qui se remplit d'air, et qui, en plus, et qui remplit aussi l'air par le bruit. Ici, on sait très bien ce que c'est qu'une cornemuse ou un vignou, et l'espace, ça remplit de manière assez radicale. Donc cette idée de saturer, hein, vous n'avez pas un endroit de vide. Mais alors en même temps, il y a aussi quelque chose comme ce qui est la boulimie, c'est que l'air de rien, ça traduit une certaine angoisse. C'est l'angoisse du vide. Vraiment, là, c'est la peur du vide. On est au XVIIe siècle où on se pose des questions sur le cosmos. Vous savez, c'est pas du tout absurde de relier ça. Alors, le corps, il est dans tous ses états, de l'enfance à la vieillesse, hein, y compris dans ses fonctions organiques urinées. Hein, le bébé, ici, je crois qu'il urine. Vous allez voir aussi, là, tout à l'heure, il vomissait. Vous avez aussi la mère qui donne même à boire à son enfant. Vous avez celui-ci, le sein qui déborde de la chemise. Vous avez le fou, ici, le fou du roi. C'est aussi l'idée de l'hubris, du désordre. Hein. Alors, chez Jordan, ça passe aussi par... il traduit de la même manière les mythes grecs. Alors, Cérès, Perséphone, etc., les déesses des moissons, les déesses de toutes ces choses-là. Toutes la nourriture et la générosité de la nature est ici représentée avec des corps qui sont massifs, qui sont luisants, qui sont souvent passifs, hein, qui sont remplis. La différence, c'est que Jordan, ça sera des corps agités. Pour remplir l'espace, il y a plusieurs manières. Soit on se gonfle, soit on bouge très vite. C'est un truc tout bête, mais c'est... Parce que ce qui danse, donc le rapport à l'espace, c'est vrai que conquérir l'espace, soit le mouvement, ça sera plutôt Rubens, mais Jordans, c'est quelque chose, une sorte de passivité, une conscience aussi, alors, comme du fruit, comme les feuilles de chou, alors, c'est peut-être de générosité aussi de la nature, que l'on voit très clairement ici, ou que ce soit les fruits de la nature, ou les corps, sont associés. Les enfants... la prolifération au sens strict, prolespérere, c'est porter des enfants. Proles, ça veut dire les enfants, porter des enfants. Et on dit prolétaire, normalement, c'est ceux qui ont des enfants, etc. Ceux qui produisent aussi. Cette idée d'une générosité, y compris du corps humain, y compris de la terre, de la nature, des fruits, etc. Une abondance qui est aussi originelle. Hein. Et là, alors, dans la peinture de Jordan, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, très peu. Si vous, votre regard va vers le ciel, il y a des nuages. Il y a très peu d'ouverture. On est toujours au premier plan. Et là encore, celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est encore un... Qu'est-ce qu'on va voir aussi ? On va voir les silènes et Pan. Hein, donc, je vais déjà parler de Pan. quand on avait Buticien l'année dernière, avec Apollon et Martias, là on voit qu'il y a des valeurs, y compris de sexualité, hein, d'animalité, qui sont étalées, répandues. Alors, chose bizarre en même temps, c'est un peintre catholique, mais il y a quelque chose qui chez les protestants est une... On dit que dans la culture protestante, il y a aussi la culture de la richesse. C'est qu'il est, bien de s'enrichir. C'est pas du tout un péché. Il faut au contraire croître et se multiplier. Et ça paraît comme une injonction biblique. Donc on n'est pas du tout dans une vision catholique, austérité, de pauvreté, de renoncement, etc. Là, vous avez une œuvre qui est à mi-chemin aussi entre deux cultures. Elle a ce côté, on va dire, des Flandres catholiques. Hein, dans ce cas-là, on va accepter la religion catholique et en même temps, on va accepter aussi la culture économique du protestantisme, dont on dit parfois, il y a des thèses là-dessus qui disent que le protestantisme, c'est la première culture du capitalisme. C'est la première justification théorique et culturelle du capitalisme. Amasser, accumuler, prospérer, proliférer, enrichir, sans avoir de honte sur l'argent. C'est un truc tout bête aux États-Unis, c'est ce qui domine, hein, la culture au niveau de l'argent, c'est un héritage de cette culture protestante. Hein. Donc il y a le protestant, il y a une part d'austérité dans certains domaines, et puis dans d'autres. Alors voilà comment est-ce que le XVIIe siècle, c'est vraiment un brassage de cultures dont on voit des grandes différences. Et voilà encore du Jordaens. Hein, voilà du Jordaens, et vous avez toujours la formule, une sorte de vocabulaire, et toujours la même place, toujours celui qui vomit, toujours les enfants, ici, qui s'ennuient, là, qui sont assez qui soufflent. Alors là, évidemment, rappelez-vous, Apollon et Martias, on est dans les instruments à vent, et pas dans les instruments à cordes, parce que les instruments à vent, c'est le corps, c'est le souffle, avec des instruments à cordes, c'est juste le doigt, c'est le son pur, c'est plus aérien. Apollon et Martias, c'était aussi deux types d'instruments, à cordes, à vent, aérien et venteux, etc. Et le souffle. Alors, donc voilà, ça c'était un petit. Alors, chez Rubens, c'est un peu différent, mais regardez les différences de corps entre Vénus de Rubens et exemple, les femmes chez Vermeer. Hein. Donc alors voilà, je déborde un petit peu, mais j'ai commencé le sujet proprement dit. Mais on ne quitte pas la problématique, parce qu'aujourd'hui on va voir un drôle de truc. Un drôle de truc, mais j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est parce que d'abord c'était mystérieux. D'abord c'est surtout cette peinture précisément qui est là. Le sujet c'est le roi Assa détruisant les idoles. Mais elle date du 17e siècle également, fin du 17e siècle, et vous avez un temple qui s'écroule effectivement. Et le truc aussi qui est un peu bizarre, c'est l'attribution. Parce que moi j'ai connaissé le nom de Desiderio, et puis ensuite j'ai vu que c'était attribué à François de Nomé, et puis ensuite c'était attribué à Didier Barra. Didier Barra et François de Nomé, en fait, sont des vrais peintres qui ont existé et qui sont tous les deux de Metz. Je ne sais pas si je fais bien Metz. En Lorraine aussi. Donc, vous avez effectivement deux artistes qui sont à peu près de la même génération, mais qui se sont connus à Naples et qui sont effectivement lorrains. Et qui sont en plein XVIIe siècle. Et qui ont décidé de travailler ensemble et de s'inventer un pseudonyme. Donc, c'était une collaboration. Et Desiderio. C'est le nom, c'est un artiste qui n'existe pas. C'est un travail de duo, c'est pas du tout un couple, mais c'est un duo d'artistes qui se mettent d'accord pour prendre ensemble. Alors Desiderio, D-E-S-I-D-E-R-I-O, et d'où les phénomènes d'attribution un peu complexes. Mais, ça c'est un petit peu pour l'anecdote, ça montre que là vous avez des artistes qui mettent un peu de côté leur simple sensibilité pour mettre en avant plutôt des idées. Une vision du monde. S'ils se mettent à deux, alors que Jordaens, ou déjà du Jordaens, c'est au contraire des affirmations d'individualité, de style personnel. Depuis la Renaissance, c'est vraiment quelque chose qui était un enjeu. Là, vous avez au contraire des artistes qui mettent de côté leur ego, quelque part, pour aller vers une sorte d'idéal de peinture. Alors, Après, il y a aussi les sujets qu'ils vont traiter. Hein, l'idée d'un monde qui s'écroule. L'idée d'un monde qui s'écroule, et comme par hasard, vous avez ici l'idée d'une église qui s'écroule. Hein. Alors, le sujet de prétendu, c'est le roi détruisant les idoles qui seraient à droite, et un roi donc juif qui détruirait les idoles, les fausses idoles, et qui construirait le temple ici. Mais vous avez quand même l'idée de l'iconoclasme, d'une église qui s'écroule, qui est partagée en deux, qui est divisée en deux. Or, on est précisément dans ce cas-là au XVIIe siècle, avec le schisme, avec le rapport aux images, un rapport aux icônes, et puis, ben, vous avez un grand désordre. Alors, la violence des guerres de religion est effroyable, 1572 de Saint-Barthélemy, mais dans l'Est, en Suisse et en Bavière, etc., c'est des massacres également effroyables, des deux côtés. Donc vous avez une véritable violence, vous avez une violence pour les artistes, parce que tout d'un coup, le doute total sur est-ce qu'il est licite ou non de peindre, peindre quoi, peindre comment, peindre pour qui. Donc vous avez un bouleversement qui est réel, un monde qui s'écroule, hein, une civilisation de l'image et de la religion qui s'écroule. Donc cette peinture est emblématique, une lumière qui vient de ses eaux, fantastique, des petits personnages qui sont petits, hein, tout petits, qui semblent un peu presque rien, et puis un effet de dramatisation. Alors, on peut dire que ce qui va caractériser Desiderio, c'est ce style-là. Je vous en montrerai plusieurs. Les savants réussissent à attribuer à Didier Barat ou à François Delaunay. Mais c'est assez compliqué, il y a peu de traces. Ils ont surtout travaillé à Naples. Et les attributions, donc, c'est un peu compliqué. Et leurs œuvres sont éclatées aussi dans les collections, puisque c'était aussi des artistes, on l'a dit, mineurs. Ils ne rentraient pas dans les grandes catégories. Mais je les ai présentés parce qu'il y a un côté de curiosité. Il y a aussi une dimension un peu fantastique qui est nouvelle, hein, d'imaginaire. Alors, l'intérêt aussi d'un monde qui s'écroule, on a vu, ça peut être, ça laisse la place à des nouveaux sujets, comme dans les scènes de genre en Hollande, avec le Vermeer, mais ça laisse aussi la place à de l'imaginaire, à du fantastique, à des mondes, puisque de toute façon, il n'y a plus tellement de règles, eh bien, ça va aussi ouvrir. Et c'est un petit peu le cas ici. Alors, d'abord, c'est un travail aussi remarquable de perspective et de chaos, hein, puisque là, vous avez une perspective très rigoureuse, une science de l'architecture qui est remarquable, mais rappelez-vous qu'en Hollande, les églises se vident. Alors, les peintures de... je ne vais pas différencier Barat et Nommé, parce que c'est trop compliqué. Et puis souvent, je dis, sur un site, ça va être signé Barat, l'autre Nommé, l'autre Desiderio. Donc j'ai surtout privilégié la qualité, la chronologie et la qualité des images. Et puis aussi la thématique. La première thématique, et c'est là où c'est assez drôle, ce sont des... Je vais peut-être garder comme ça pour avoir les titres. Là, ce sont des peintures théoriquement religieuses. Là, c'est la montée au calvaire. La montée au calvaire, mais qui est discrète ici. Alors, on avait vu Bruegel, etc. Mais alors, Jésus, il faut le chercher, il est là, dans un petit coin. Mais ce que l'on voit surtout, c'est ces lumières de fin du monde. Hein. D'orage, de ciel sombre. Mais le ciel n'est plus le divin. Le ciel n'est plus le divin. Alors, Tintoret avait déjà inauguré des choses comme ça avec le manierisme. Et puis vous avez des villes qui sont un peu pétrifiées, justement, comme Sodome et Gomorre, par exemple, hein, des lumières de fin du monde. Donc on a l'impression assez exacte, hein, d'une. Alors il se trouve que là c'est Jérusalem, hein, avec les tours et dans le ciel de pénombre, des silhouettes miniatures qui semblent s'agiter un peu vainement dans un monde finissant. Alors on s'écarte de tout naturalisme au niveau des couleurs. Mais c'est incroyable de vous dire que c'est contemporain de Jules Vermeer, de Velázquez et de Jordaens. Donc vous voyez aussi, ça aussi c'est riche, le XVIIe siècle, les crises font éclater les codes et vous avez donc des artistes qui vont fouiller dans un petit coin. Alors juste un truc, si vous voulez en voir une, regardez, quasiment un chromatisme noir et blanc. Alors, il y a aussi des supports, parfois ça peut être peint sur cuivre. Le fond, je crois que celle-ci est peinte sur cuivre. Et là encore, c'est une peinture historiquement religieuse. Le sujet, c'est alors le baptême de Jean, ou sur les Giovanni, mais là, où est-il, à la limite, ça n'a pas tellement d'importance. Et vous avez des architectures aussi inventées. Là, des architectures qui sont fantastiques. Alors que, donc, c'est une architecture un peu de rêve. C'est pour ça d'ailleurs que. Nommé, enfin, Desiderio a été un peu retrouvé par les surréalistes beaucoup plus tard. Hein, parce que cette espèce de capacité à reconstituer des mondes est assez intéressante. Grâce à la perspective, c'est-à-dire que ces artistes se rendent compte que la perspective peut décrire le monde, mais elle peut aussi créer un monde réel. Donc on peut le croire grâce à la perspective, bien maîtrisée, grâce aussi à la maîtrise de la lumière, on peut faire exister des mondes impossibles. Qui sont effectivement une sorte de surcharge aussi de richesse, vous voyez, là, il y a vraiment une surcharge de délires architecturaux classiques, baroques, alors on est à l'époque baroque un petit peu, mais en même temps pour rien, c'est aussi c'est comme des châteaux de sable, des pâtisseries, ils n'ont pas de teneur, ces bâtiments. Donc c'est aussi, hors le temple, la métaphore du temple, au sens large, depuis la Renaissance, c'était vraiment la structure qui organisait la société. C'était le sommet, hein, la référence, la cité idéale, l'utilisation des mathématiques, de la géométrie, un lieu dédié à Dieu, et qui était un repère dans la cité. Et là, tout d'un coup, vous avez une sorte de prolifération de temples qui deviennent une sorte de fantômes. Ça aussi, c'est clair dans leur travail. Là, alors vous avez les enfers, alors là, il est plus à son aise, mais évidemment, là, dans les détails de Jérôme Bosch, on avait ça, mais là, Jérôme Bosch, c'est une partie. Là, vous avez le sujet, effectivement, l'enfer, avec toujours des couleurs de terre, de lui, c'est que faut se lever de très bonne heure pour trouver du bleu et du vert chez le nommé Désidérion. Hein. Vraiment, aussi dans des couleurs souterraines, hein, on a vu que. Vulcan, hein, on a vu l'opposition sur les Velázquez entre les couleurs de terre, sous terre, et les couleurs célestes. Et là, très très clairement, le choix est fait. Alors, la chute, hein, les gouffres, les incendies, l'humanité réduite à une sorte de petite fourmilière, hein, et finalement, que ce soit dans les enfers ou à Jérusalem, on est à peu près dans le même type de lumière. Mais c'est un sens remarquable de l'espace, hein, des modelés, des dégradés. Alors, vous pouvez en trouver une à Paris. Je ne sais plus exactement laquelle est à Paris. Elle est au Musée des Arts Décoratifs de Rivoli. Je vous incite, si vous ne connaissez pas le Musée des Arts Décoratifs, il n'y a pas grand monde. Et vous voyagez de siècle en siècle. Hein, c'est une des premières pièces, on dirait la chambre des époux Arnolfini. Et puis, dans celle, une des chambres, une pièce du XVIIe siècle, je ne savais pas, bam, je crois qu'il y en a deux, nommées Désidérées. Et là, on est tranquille, il n'y a personne. C'est comme la tante de si c'est bien, il y a un musée où il n'y a personne. Alors vous avez, on voit le sol aussi, le sol se dérobe, on n'est plus dans un sol homogène, on est dans le sol qui servait, on a vu par exemple chez Velázquez, chez Vermeer, le sol, la mise au carreau, c'est une manière d'être sur Terre, d'être bien quelque part sur Terre. Là, on est bien, non pas sur Terre. Ça se dérobe, ça s'en va, ça s'échappe, ça se creuse, c'est infini, vers le haut, vers le bas, il n'y a pas de repos, il n'y a pas effectivement d'issue. Alors là, le sujet, précisément, moi, je les oublie, parce que même pour décoder ces œuvres, ça c'est Daniel dans la fosse aux lions. Daniel dans la fosse aux lions, alors Daniel, qui part par là, alors la tradition biblique dit que Daniel dans la fosse aux lions, c'est une des références bibliques qui est la plus hallucinée. C'est une prémonition de l'Apocalypse. Les visions de Daniel dans la fosse aux lions, ça a souvent été pris en référence quand, justement, on voulait aller du côté des visions apocalyptiques de la Bible. Dans la Bible, vous avez des côtés un peu historiques, vous avez des sortes de femmes morales ou religieuses, et puis vous avez des visions ça, qui sont très archaïques, hein, qui sont dans une sorte de tradition sans doute extrêmement ancienne de magie, des peu, de visions qui sont très très éloignées en fait d'une spiritualité religieuse. Et c'est pas étonnant de retrouver les moments aussi cataclysmiques comme ça. Hein. Et là encore, ben, une cité qui ne porte plus rien, des colonnes vides, des ruines, etc. Alors, il faut savoir qu'ils sont lorrains, mais ils travaillent en Italie. C'est-à-dire qu'ils ont traversé toute l'Italie, et les ruines de Rome, tout ça, c'est aussi des choses qui leur parlent. C'est l'idée qu'une civilisation, aussi, au lieu, la Renaissance s'inspirait des ruines pour construire, mais eux, ça les amène à imaginer aussi qu'une civilisation peut se détruire. C'est que est-ce qu'on n'est pas à la fin aussi d'un monde qui est en train de s'écrouler aussi. Et donc, la poétique des ruines, alors, c'est bien avant le romantisme, on est deux siècles avant le romantisme, mais il y a déjà une poétique des ruines et de mondes finissants, hein, et des mondes intérieurs. Là, d'ailleurs, alors, certains Ça, c'est derrière les ruines avec Saint-Augustin et l'enfant. Vie de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui était donc un personnage de Romain, de l'Empire romain. Et vous avez effectivement des ruines et Saint-Augustin tout petit. Hein, donc on est quand même très très loin de Saint-Augustin dans son cabinet de travail, c'est ça le Saint-Augustin inspiré, intellectuel, etc. On est là au contraire dans un personnage seul. Alors, la solitude, c'est encore un sujet pré-romantique, hein, puisque se sentir seul au monde. On a vu que chez Werner, c'est être seul, mais être bien au monde, trouver quelque part et finalement comprendre le monde et ne pas être perdu, même si on est dans un tout petit coin du monde. Et là, vous avez l'idée de faire, encore tout petit, perdu dans un monde trop vaste, et incompréhensible, et incommensurable, hein, jusque dans les cieux, etc. Alors, ceci dit, on comprend quand on voit ça, et on verra vers d'autres visions, qu'il y a vraisemblablement quand même une étude. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé de dessin de carnet. Mais on peut très bien, on imagine qu'il n'a pas inventé ça du premier coup, et que là, il y a une étude, une observation de lumière et de volume qui fait aussi un effet de réel, c'est-à-dire qu'il y a une subtilité des ombres propres et des ombres portées sur les bâtiments qui sont assez remarquables, y compris les cieux d'orage.
Que signifie la différence de couleur entre celle qui a la...
Ah, le jaune et le... Alors,
puis le gris derrière.
Eh bien, les couleurs...
C'est un symbole.
Non, moi ce que je vois surtout, c'est on est entre l'incendie et la pétrification. La pétrification, ville de sel, statue de sel, Sodome, Gomorrhe, etc., qui sont justement comme des fantômes, et le jaune et l'ocre évoquent un peu la chaleur, l'incendie, etc. Parce que on trouvera peu de rouge, peu de... Alors, vert et bleu, non, qui évoquent le ciel, l'herbe, etc. Par contre, et c'est même un jaune un peu... d'effet, c'est un jaune presque, sauf ici aux enfers. Alors là, il y a un petit peu de rouge, alors attendez, je suis obligé de regarder les titres, parce que c'est le jugement de Salomon. C'est le jugement de Salomon, alors là encore, on est dans des moments de partage, de doute, d'inquiétude, de crise. Et à chaque fois, vous avez aussi cette grande solitude de Salomon, des mères, des enfants, etc. Donc, dramatisation, situation dramatique, etc. Avec aussi des très belles, une belle place ici, et une part d'imaginaire dans lesquelles les corps se font de ceux des statues, mais on n'est pas du tout dans des corps qui maîtrisent la situation. Bon. Vous voyez l'éventail, un peu la représentation des corps, au XVIIe siècle. On regarde les corps de Jordaens, on regarde les corps de Werner, les corps de la tour, et donc ces corps-là, à chaque fois, vous avez un rapport au monde qui est spécifique. Et toujours, corps et espace sont reliés. Est-ce qu'on le maîtrise? Est-ce qu'on le remplit? Est-ce qu'on s'agit? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est équilibré? Et vous avez, ou est-ce qu'on est là juste de passage, avec de la tour, et il dit que le corps est de passage. Là, vous avez des petites silhouettes fragiles qui s'agitent, mais qui ne feront rien. Alors, attendez, ça c'est la décapitation de Jean-Baptiste, je crois. Oui, c'est ça, qui est ici dans un coin. Alors, vous avez aussi souvent une fascination pour la ruine, parce qu'en même temps, cette espèce de monde qui se défait, il est extraordinaire. Il est beau, il est fascinant, et à la limite, on s'en fiche un petit peu, la petite scène, finalement, elle est presque moins intéressante que cette espèce d'enchantement merveilleux qui n'a plus de sens. Donc on est là aussi, on est dans une sorte de perte de repère, puisque ce qui devrait faire du sens, c'est la petite zone qui est dans l'ombre et qui est toute petite, avec on voit Salomé qui vient récupérer la tête de Jean-Baptiste. Le petit Jean-Baptiste est comme une sorte de petit truc au premier plan. Et vous avez au contraire un bâtiment extraordinaire, magnifique, peut-être en ruine, mais fascinant, hein, de grandeur passée, mais qui ne dit rien. Alors, donc vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une peinture, hein, y en a une multitude qui sont toujours corrélées. Alors attention, ça c'est, faites Iction, parce que je vais une roue cassée, c'est Martyr de. Ah non, c'est Sainte-Catherine. Sainte-Catherine qui éclate la roue. Hein, qui fait éclater la roue qu'il avait recoupée avant Michel. Donc, encore une certaine. Alors là, il y a un peu plus de rouge, il y a une dimension un peu plus positive, et toujours le même type d'architecture et d'extérieur. Alors, c'est des extérieurs en même temps qui sont entièrement architecturés. On ne voit pas d'arbres, on ne voit pas de rivière, sur le rivage, on ne voit pas de plaine, on ne voit pas de choses. Poussin, c'était à la même époque, hein, Nicolas Poussin avec ses paysages structurés, construits. Donc là, on se promène dans des zones. Alors,
Là, le sujet, c'est les personnages des anges. Ah, bah, c'est Sodome et Gomorre, bien sûr. Sodome et Gomorre, alors, ici, vous connaissez la légende. Le retournement, alors, la femme ici de Lot est sans doute la petite silhouette qui est ici. Vous avez Lot avec des anges au lieu d'être avec ses filles. Alors là, c'est pour ça que est-ce que c'est vraiment Sodome et Gomorre, c'est ce qui était le titre du tableau. Mais vous avez l'incendie, la fin d'un monde et la pétrification encore. Donc on trouve effectivement ce que je vous disais, soit l'incendie d'une part, soit la pétrification de la femme. Vous avez quelque part les cendres ou la craie à la terre. On perd les couleurs aussi dans les deux cas. Les seuls qui restent, c'est ces couleurs. Alors là, exceptionnellement, il y a un élément de paysage, mais qui est à contre-jour, et donc vers lequel il va, théoriquement, il va vers le côté positif des choses, il quitte Sodome et Gomorre, mais en fait, on est dans l'ombre aussi. Hein, donc, alors cette grande hésitation, ce grand doute, est totalement emblématique hein, de ce XVIIe siècle qui est en train d'éclater totalement au niveau de ses repères, de ses références. Rappelez-vous les procès de Galilée, de Copernic, Kepler, sur l'espace, le doute de Pascal, le doute de Descartes, le doute de Spinoza, donc vous avez aussi ça dans la philosophie, dans la cosmologie, et dans les sciences, et vous avez aussi, rappelez-vous, une question clé, c'est aussi est-ce que l'espace est fini ou infini? Et s'il est infini, de quoi est-il plein? Et comment est-ce qu'on peut faire pour le remplir? D'un coup, vous avez aussi une angoisse, parce que l'espace devient un problème anxiogène. Tant que l'espace et la Terre étaient, on a vu, l'espace ptolémien était fini avec la sphère des étoiles fixes, bon, c'est vraiment, on pouvait se balader, quoi. On pouvait se balader, il rêvait un petit peu, il y avait une borne. C'était borné, c'était limité par la sphère des étoiles fixes. À partir du moment où on imagine qu'il est ouvert et qu'il n'a plus de centre, c'est ce que dit Pascal, hein, le centre est partout et la circonférence nulle part, eh bien, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Comment est-ce qu'on y circule? Comment est-ce qu'on le pense? Comment est-ce qu'on occupe ce vide? Vous avez plein de théories au XVIIe siècle sur la nature de l'espace. Est-ce que l'air, c'est de la matière? Est-ce que le vide existe? Est-ce que c'est quoi l'éther? C'est quoi l'âme, les pensées? Donc on commence à interroger vraiment la quintessence, justement, cette espèce de cinquième élément compliqué. On essaie de comprendre cela et avec une multitude d'interrogations qui vont dans l'infiniment petit. Alors, les artistes, à leur manière, expriment le doute, l'incertitude, les espaces ouverts, le fait qu'on est perdu, qu'il n'y a plus de centre, parce que ça aussi, c'est typique de Monsu Desiderio. Alors oui, parfois on dit Monsu Desiderio, M-O-N-S-U, donc Desiderio, Monsu Desiderio, ça veut dire Monsieur Desiderio. Monsieur Monsu, je crois que c'est le terme, je ne sais pas si c'est pas du napolitain, Monsu Desiderio. Alors là, vous avez. C'est quoi? Yael, c'est ça.
Comment s'appelle déjà? J'oublie toujours son nom.
Jael et Sisera. Jael et Sisera, vous vous souvenez, on a vu ça avec. Artemisia Gentileschi, là, avec cette femme qui enfonce un coin dans la tête d'un. L'abuseur. Hein. Donc il va aussi choisir des scènes violentes. Hein. Décapitation de Saint-Jean-Baptiste, sur ça on trouve souvent au XVIIe siècle. On est dans des scènes aussi qui sont souvent de violence, hein, qui sont inspirées par ça. Là vous avez un veau d'or, hein, vous avez les incendies. Alors c'est très difficile à repérer, mais c'est une organisation. À partir du moment où l'espace n'est plus centré, il y a une perspective, mais c'est aussi très libre. L'occupation de l'espace de la peinture est très libre et très intéressant, on le voit ici. Avec ici une référence quand même au culte païen, la colonne Trajane qu'on avait vue en début de programme, et puis vous avez ici des références à l'architecture gothique, renaissance, etc. Et puis des lumières incroyables qui traversent comme ça les rues, et les lumières latérales, qui éclairent cette scène aussi de violence, cette femme qui tue dans son sommeil en enfonçant un coin dans la tempe du méchant. Alors là, c'est un truc tout bête, mais pour trouver des documents, c'est pas évident, parce que comme ce n'est pas des artistes très connus qui ont des noms différents, donc j'ai des documents parfois qui sont de mauvaise qualité, comme par exemple celui-ci, et encore un martyr de Saint-Ursule. Alors là, on était dans des. Et on est encore dans des thèmes chrétiens, théoriquement, et bibliques. Donc on voit qu'il s'inscrit quand même, il n'est pas à la tradition protestante, hein, il est lorrain, mais on est toujours dans les peintures religieuses. Mais qui
on n'a pas du tout de valeur, on va dire, didactique. On n'imagine pas un prêtre, un curé, s'appuyer sur cette peinture pour pouvoir construire un discours. Au contraire, on a vraiment l'impression que tout se défait. Alors que la plupart des peintures religieuses, c'est quand même des commandes dans lesquelles on pouvait construire un discours prosélyte pour justifier. De toute façon, c'était même la grande tradition chrétienne, catholique, c'était d'utiliser la peinture comme un langage, donc avec des clés, avec des codes de présentation, avec une lecture qui pouvait varier, mais qui correspondait à une vision chrétienne du monde. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une sorte de contraire. Ils vont piocher des sujets, parce que il y a un truc, c'est qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas encore d'autonomie des genres de peinture. Il n'y a qu'en Hollande où on commence à faire peinture de paysage, peinture de genre et nature morte. Mais si vous voulez, en Italie, ça n'existe pas encore. En Italie, en France, quasiment pas. Donc si vous voulez, il faut justifier souvent, même par rapport au client, même le peintre lui-même, se justifier avec un sujet. Un sujet. Alors là, c'est encore martyr d'un saint. Alors on ne sait même pas de quel saint il s'agit. On sait à peine où il est. Et on est toujours dans des architectures du même genre. Là, c'est saint Paul prêchant aux Athéniens. Alors là aussi, il y a une liberté, il n'y a aucune référence réelle à la véritable architecture. Ça n'a rien de grec, évidemment. On est plutôt dans du post-romain, baroque, dans une sorte d'éclectisme architectural. Enfin, strictement rien. Et la scène, c'est Paul, ça pourrait être n'importe qui. Les Athéniens n'ont rien d'Athénien. Et c'est un petit groupe comme ça sur un décor. Et il n'y a jamais personne dans les lointains. Alors encore un martyr, et encore on va dire un monde qui s'écroule, et des ruines fragiles. Donc on peut. Comment ? Alors là il y a du monde, il y a du rouge. Alors le rouge c'est effectivement, on dit que la gamme c'est du jaune au rouge, c'est donc blanc, noir, gris, etc. et jaune rouge. Évidemment, parce que les couleurs d'incendie, de sang, etc., de passion, ça c'est assez clair. C'est un truc tout bête, ça c'est un code couleur, pour dire, c'est un code couleur qu'on trouve, y compris chez Paolo dans la bataille de San Romano, contre presque toujours, c'est, et même plus tard chez Goya, scène de Christ, c'est noir, blanc et jaune, rouge. Regardez, partie des œuvres de Goya, noir, blanc, jaune, rouge, c'est ce qu'on trouve dans la bataille de San Romano. C'est vraiment, en général, une sorte d'harmonie colorée un petit peu intuitive, mais qui s'écarte évidemment de tout ce qui pourrait être naturaliste, des bleus, des verts, des jaunes pâles, etc. Donc on est vraiment dans des gammes que les artistes, sans que ça soit théorisé, comprennent bien. Mais ici, donc, le monde encore qui s'écroule. La cité d'une église qui s'écroule, c'est vraiment, et qui est partagée en deux, vous voyez, c'est quelque chose qu'on voyait déjà tout à l'heure, c'est très clairement une sorte de signe de l'église catholique qui brise en deux avec le schisme protestant. Alors là, je crois qu'on arrive cette fois-ci à. Est-ce que c'est la ville de Troyes? Le sujet, je le connais. J'ai pas vu de titre. Ah, ça c'est encore là. La fuite en Égypte. C'est toujours peinture religieuse. Fuite en Égypte. Alors, il est dit au niveau des styles que Didier Barra est plus précis, en général, et peut-être un peu plus naturaliste, et François Denomé est plus flou, plus confus, plus radical dans ses contrastes. Donc là, on pourrait vraisemblablement voir plutôt du Didier Barra. S'il y a des légères différences, c'est peut-être qu'il y a une qui touche l'œuvre de Barra, et François Denomé serait plutôt dans l'espèce d'exagération ou liberté qu'ils ont pris dans les volumes. Mais on a des thèmes qui sont, et des dispositions qui sont les mêmes, et des références qui sont les mêmes. Ce qui est assez drôle aussi, quand même, c'est la multiplication des sculptures, parce que ni en Italie ni en Grèce, vous trouvez des ruines comme ça, autant surchargées. Alors, cette idée de reconstruction aussi des ruines, c'est assez drôle, puisque si vous êtes au milieu des ruines, il y a plein de fragments. Donc, si vous reconstruisez, vous pouvez imaginer que tout ça fonctionne ensemble. Donc, on reconstruit des bâtiments qui n'ont jamais existé avec des fragments. On dit ça tout ensemble. Donc, il y a une part aussi d'imaginaire qui est assez claire. Et puis, alors, la fuite en Égypte ne correspond à rien. Le paysage n'a rien à voir avec ni Jérusalem, ni l'Égypte.
Alors ça c'est la tour de Babel, encore c'est une autre. Alors attendez, il faut que je fasse attention. Ah ça c'est là. Alors celui-ci est peut-être aussi plus de Didier Barra, parce que là vous avez du bleu, là il y a quelque chose d'un peu plus ordonné, en général Barra est moins tragique, hein, et il y a quelque chose de très très beau au niveau de la perspective, et des dessins d'architecture et des sculptures dans l'architecture. Tombeau de Salomon, encore une vision fantastique et rêvée. Alors, ça aussi, c'est le paradoxe de la perspective très bien maîtrisée par des artistes, qui servait le principe même d'origine de la perspective, si vous vous souvenez, donc, Angelico Piero da Francesca, c'était d'établir un rapport entre le proche et le lointain, la terre et le ciel, et puis d'ordonner le monde de façon harmonieuse, pour s'y déplacer avec des repères, et aller en profondeur. Les artistes ont été nourris de perspectives, et tout à coup, cette perspective qui ne dit plus rien. Donc vous avez en même temps des savoir-faire incroyables, qui sont des virtuoses de la perspective et la représentation de l'espace, mais pour rien. C'est une sorte de technique qui finalement, de technicité de savoir-faire qui est vain. Alors la vanité aussi, c'est quelque chose que l'on trouve au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait là, etc. De même la vanité de la représentation. Alors, on l'avait avec deux tours, puisque on peint quelque chose, mais en fait, la vérité, c'est dans le néant total. Et là, vous avez une perspective remarquablement maîtrisée, mais qui ne mène à rien. Donc, vous avez aussi même une vanité du métier de peintre, ici. Alors, l'autre grand sujet, voilà, c'est la chute de Troie. Et vous voyez qu'en fait, là encore, alors, le terme de la guerre de Troie, un grand thème, effectivement, on va le retrouver très souvent. Et c'est... Attendez, ça c'est encore l'exécution d'un évêque. Oui, ça c'est le martyr de Saint-Janvier. Donc c'est pas la guerre de Troie. Je vais la guerre de Troie. Non mais c'est... En fait, j'y arriverai. Bon, ça, je vais pas vous dire à chaque fois. Là c'est Saint-Jérôme dans le désert, je crois qu'il a. Hein, avec incendie et architecture.
Oui.
Ouais. Et voilà. Voilà, là c'est l'incendie de Troie. L'incendie de Troie est quand même très... Alors les peintures ne sont pas très grandes, hein. Par exemple ceux qui ont au musée des Arts Déco, c'est à peu près comme ça. Ce n'est pas des grandes fresques. Hein. C'est souvent la procession sur cuivre, des petits tableaux, hein, qui ont une dimension de miniature. Et évidemment, la chute de Troie, là aussi, incendie, guerre, fin d'un monde, violence. Et là, vous avez effectivement Aîné en Chise, etc. Alors d'ailleurs, vous regardez ici ce qui est typique, c'est qu'autant l'architecture est maîtrisée, autant les corps sont très maladroits. C'est grossièrement anatomie, proportion, on voit que d'un point de vue, là, il n'y a aucune virtuosité, au contraire. C'est même très pâteau, hein, mal peint, disons le franchement. Et la plupart du temps, ces artistes-là, de toute façon, ils ont un rapport au corps un peu compliqué, hein, parce qu'on n'est pas dans la sensualité, le corps ne vaut pas grand-chose, c'est plus le carnaval ici, on pourrait dire que c'est le contraire. Hein, le contraire de la joie, c'est le vide, c'est l'angoisse, c'est la mort, c'est un espace plein d'inquiétudes dans lequel, et même la perspective du cheval est totalement ratée. Oui. Hein. Par contre, ce qui est somptueux, c'est description un peu presque topographique d'un espace profond, mais en plein dans les incendies et les fumées. Alors là, le travail remarquable des fumées, c'est clair. Alors, le thème des ruines, le thème de Troie, effectivement, m'a fait rêver aussi. On est dans le mythe, on est dans le passé. Alors, le thème de Troie, on va le trouver régulièrement traité. Là encore, la plupart du temps, c'est toujours le thème de Troie. On voit le cheval ici. Alors là, vraisemblablement, c'est peut-être plus nommé et l'autre était plus Barra. Et là encore, un dédale, c'est le cas de le dire, avec le cheval, la rue, la mort, etc. Ouf. Là encore, donc oui, il n'y en a pas un, il y en a beaucoup. L'intérêt de l'incendie, très clairement, c'est que ça permet d'avoir des contre-jours et des silhouettes qui se détachent. Parfois, ça modèle totalement avec des très beaux dégradés, et au contraire, parfois, vous avez des silhouettes qui se détachent presque en aplat. Alors, vous avez toujours Aîné en Chise qui sont en train de fuir. Alors, assez souvent, vous avez vu que les gens qui échappent à la catastrophe viennent vers nous, mais. C'est sombre, et on ne sait pas très bien où ils vont. En même temps. Donc au lieu d'aller vers un lointain, vers un horizon, qui normalement aurait pu être le rapport avec le ciel, ils fuient vers nous, mais très fragiles.
comme si c'était à nous de les accueillir. Et ça, on pourrait aussi gloser un peu là-dessus. Alors, cette perte, cette inquiétude, cette solitude, et également, parce que là, c'est trois, mais à la fin, c'est justement où aider Kit, essayer de sauver son père, donc là encore une fuite individuelle. Le thème des martyrs aussi, qu'on trouve souvent, c'est un peu la même chose. C'est que les martyrs sont seuls en la mort. D'un coup, ils sont martyrisés. Saint Jean-Baptiste, Jésus, Sainte Catherine, toujours cette idée de la martyrologie. Alors la martyrologie, c'est aussi typique du XVIIe siècle, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de martyrs, d'abord victimes des guerres de religion, entre eux. Vous avez aussi les... comment on appelle ça? Ceux qui sont allés ceux qui se vont dans les lointains du pays évangéliser, entre guillemets, les missionnaires qui sont effectivement souvent martyrisés. Certains vont martyriser, notamment en Amérique latine, mais vous avez également ceux qui vont partir en Chine, au Japon, etc., qui avec des vécus assez hallucinants et qui sont des véritables aventures. Donc vous avez aussi un monde qui s'ouvre, un monde aussi qui est très complexe, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qu'on peut aborder avec ça dans l'idée du monde qui s'ouvre. 1492, découverte du Nouveau Monde, ok, ça c'est le 15e. 16e, c'est un début de mise en place, mais alors le 17e, le monde s'ouvre réellement. C'est cette période où les jésuites vont au Japon. C'est la période de construction, effectivement, d'établissements délibérés en Amérique latine. Vous avez aussi tout ce qui est l'Inde, l'Afrique subsaharienne, vous avez toutes ces contrées extrêmement vastes, donc le monde est extrêmement ouvert, et même tellement ouvert qu'il faut se le partager, il faut se le répartir, et vous avez là un monde là aussi qui est ouvert, dangereux, complexe, et dans lequel aussi vous avez la confrontation avec plein de religions. Donc non seulement la religion chrétienne, qui normalement, puisque 1492, théoriquement, Christophe Colomb devait, sa mission, c'était de convertir les derniers sauvages, pour que le monde entier soit chrétien. C'est pas ça qui se passe, et puis tout s'écroule, etc. Donc, si vous voulez, le projet est totalement raté. Hein, et en plus, le christianisme est séparé en deux. Puis, vous avez les orthodoxes, puis vous avez les musulmans, puis vous avez les hindous, puis vous avez les asiatiques, puis vous avez les indiens d'Amérique, etc. Donc, vous avez un éclatement aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez clair dans un monde totalement ouvert. Donc, non seulement le cosmos, mais y compris la Terre elle-même. Donc voilà, alors ça n'a pas, j'ai pas vu de titre à celle-ci, mais on a quelque chose qui évoque plus une guerre justement civile. Hein, on reconnaîtrait presque les costumes de soldats contemporains. Et là, c'est par exemple la Saint-Barthélemy, hein, c'est un peu avant, mais c'est des milliers de gens jetés dans la Seine, éventrés en pleine nuit. Hein, avec, on a toujours des ambiances un petit peu comme ça de catastrophe, des échos de ces drames-là. Le détail aussi, regardez au niveau architectural, hein, les briques, hein, un appareil en quinconce et en réticulé, comme on dit, typique de Rome. Donc il y a aussi des choses qui donnent un effet de réel. Parfois il y a un côté fantastique et puis des effets de réel. Ma petite flèche. Là, voilà. Alors ça, c'est Bélisaire reconnu par ses soldats. Alors ça, c'est sans doute le Didier Barra. Quand on accroche un peu, c'est plus ordonné, plus structuré, etc. Souvent avec des morceaux de bravoure en perspective. Hein, et là aussi, c'est foncer une légende, le vieux soldat romain reconnu par ses soldats qui avait un peu abandonné la guerre. Je crois que c'est un peu plus. Celui qui est au musée d'Orléans. Donc là encore, tout à fait dans le genre. Alors vous voyez que c'est presque obsessionnel. On a quasiment un travail de série qui se fait à deux. Comme si il voulait épuiser une sorte d'inquiétude personnelle en se renforçant aussi pour justifier ces images fantastiques. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, je crois que ça n'a jamais été exposé ensemble. Là, moi, en fouillant, j'ai réussi à trouver tout ça, mais c'est pas évident. Ça de Didier Barra, un très beau paysage. Cette fois-ci, sans vraiment de sujet, avec au centre une colonne vide. Ça, c'est bien ce qu'on dit. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand on regarde presque de chaque fois ces œuvres, c'est que il n'y a jamais véritablement de choses qui tiennent totalement. Soit on est devant une ruine, qui au premier plan, etc., soit on est devant des bâtiments qui sont fantomatiques, qui semblent effectivement avoir perdu leur texture, et dans lesquels on ne voit quasiment jamais personne. Ils n'abritent rien, alors que c'est leur fonction théorique. Alors ça, c'est dit de François de Nomier avec ses colonnes vides et les grandes ruines. Évidemment, quand on passe à Rome, ça fait rêver, mais ça aussi, ça va être... alors ça vous avez vu, c'est un peu grossier, c'est sans doute Nomier, mais c'est tout petit ça. Celle-ci, on l'a vue. Ça, alors, vous avez quand même, alors là, ça va être intéressant, vous avez quand même des véritables vues, de véritables paysages. Et là, c'est une vue de Metz. Alors, n'oublions pas qu'ils sont tous les deux originaires de la ville de Metz. Alors, pourquoi ? Comme ça, un peu mystérieux, hein, parce que très longtemps, la vie de ces deux artistes était confuse. Moi, j'ai trouvé presque par hasard les deux noms, Nomé et Desiderio, et Barra. Et je vous dis, pendant longtemps, on croyait que c'était trois personnes différentes, une personne, ou deux, là, il avait deux noms, Nomé et Barra, c'était le même, etc., etc. Donc, maintenant, c'est assez clairement que c'est deux personnages, et qu'ils ont délibérément, pendant un moment, on a cru que c'était le nom de Desiderio, c'était une invention postérieure, qui avait donné ce nom à ces artistes-là. Mais apparemment, c'est eux-mêmes qui ont choisi de signer de ce nom-là. Donc c'est aussi une histoire un peu étonnante. C'est des premiers travaux de collaboration réelle dans lesquels les deux artistes travaillent. Alors, ils ont en point commun Metz, et là vous avez justement enfin peut-être une ville présentée avec presque de façon topographique. On a une image de ce que pouvait être Metz. Vous avez quand même un calvaire ici, c'est que Metz, une sorte de nouvelle Jérusalem. Alors pourquoi, comment ça va avec ici les femmes qui vont au calvaire, qui sont ici, donc une actualisation du drame religieux, et puis un paysage remarquable, et là vous avez du bleu, et des collines, alors je ne sais pas, s'il y a des collines derrière la messe.
Il y a une grande main dans la
vue de la Chine. Ah oui, la main de Dieu. Oui. Alors,
la pierre, la couleur de la pierre ressemble à la pierre de jaune.
La pierre de jaune, la pierre typique.
La pierre jaune, le ocre.
Ah d'accord, ça je connais pas.
On a caché dans la salle de tirage.
Ah d'accord. Alors peut-être qu'il y a aussi des.
J'ai reconnu un peu la.
Ah d'accord, donc dans les peintures précédentes, il y a peut-être aussi des souvenirs de ces couleurs. Ouais, ces couleurs d'ocre comme ça qu'ils projettent.
Il est où ce tableau ?
Alors. Mais là, quand je réussis à trouver le titre,
ah oui, d'accord.
C'est bien. Quand je réussis à trouver, savoir si c'est Nomé ou Barra, c'est bien. Et alors, le lieu, mais j'ai cherché plusieurs sites pour essayer de trouver le lieu des œuvres. Donc pour Vermeer, je fouille, puisque vous avez des gens, moi ça m'arrive, ils mettent des
reproductions. Oui,
on ne dit pas où ils sont. Et même sur Wikimedia, qui est assez bien fait, vous êtes sur une peinture, vous ne trouvez pas toujours le lieu où l'œuvre est exposée. Donc c'est assez compliqué de savoir vraiment où c'est. Donc aller à la chasse au barras, c'est pas mal. En fait. Alors je pense qu'il y en a à Metz. Je me demande si certaines ne sont pas effectivement soit à Nancy, soit à Metz. S'ils ne disputent pas. Alors là, vous avez une vue de Naples. Alors là, il y a quelques vues de Naples. Qui sont intéressantes aussi, puisqu'on voit quand même que ce sont des artistes qui ont cette part d'imaginaire. Dans leur imaginaire, il y a des créations réelles, mais dans leur vision du monde réel, il y a une part aussi fantastique. Que ce soit les nuages, que ce soit les lumières, etc. Donc, en fait, le passage se fait très clairement. Et évidemment, c'est totalement subjectif, le port de Naples, comme ça. Et vous voyez toujours les mêmes couleurs, ici, de façon très claire. Le noir, le blanc, le jaune, le rouge, avec les voiles, etc., c'est assez évident. Alors ça, c'est vu de Naples, vu de la mer. Alors, il y en a qui sont vraiment les mecs, qui sont pas du tout. Alors ça, c'est Saint-Pierre de Rome, quand même, ils sont passés à Rome. Donc là, vous avez, c'est avant la... C'est juste avant là, c'est intéressant, parce que la colonnade du Bernin, elle est faite juste après, quasiment le 17e siècle aussi. Donc on a une vue de Saint-Pierre de Rome avant la grande colonnade de Berlin. Et là, pour Rome, c'est peut-être une des seules où il n'y a pas de vision dramatique, comme si les choses là étaient bien en place. Là, quand même. Ça reste un repère. Il y a la coupole, il y a l'obélisque, il y a une architecture, tout est bien ordonné. La foule n'a pas l'air paniquée, et même elle a l'air d'être parfaitement ordonnée, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de violence. Là, on est dans un équilibre souhaité, peut-être, alors que même à Metz, avec un des nuages, une menace qui vient d'en haut, à Naples, c'est une menace qui vient de la mer, Mais Rome, au contraire, on a une sorte de point d'accroche. C'est pas non plus un hasard, certainement. Alors, j'attends, parce que là, vous allez voir des arts Venise. Vous avez des vues extraordinaires de Venise, hein, qui sont assez
optimistes.
Alors voilà, Venise, mais le ciel est très sombre. Le ciel est très sombre. Alors d'ailleurs, c'est inspiré de Venise, parce que si vous avez, le palais des Doges ne ressemble pas du tout à ça, et la basilique Saint-Marc, non plus. On transforme la basilique Saint-Marc en une basilique baroque, alors qu'on a la tour de l'horloge, on a le campanile, et le palais des Doges n'a rien à voir avec ça. Bizarrement, d'ailleurs, la perspective est un petit peu fausse. Par contre, c'est... là où c'est normal, c'est que Venise a quelque chose de l'ordre du rêve et du fantastique, de toute façon. Donc, si vous voulez, la vision de Venise, elle est forcément quelque part toujours fantastique, hein, avec les gondoles. Et on trouve les mêmes couleurs. Et là, comme s'il trouvait le palais des Doges, il est un peu jaune. La tour, le campanile est assez rouge. Et puis, le noir et blanc, effectivement, avec ici un ciel, etc. Donc, mais là, vous avez une place, c'est quand même très ordonné, très lumineux. Venise et Rome, comme des sortes de valeurs. Alors, Venise, on va le voir souvent. Celle-ci, c'est toujours pareil. Alors, ce que je trouve très étonnant, c'est que les bâtiments de gauche, là, et la bibliothèque, enfin, et puis le campanile sont juste. Les deux colonnes aussi. La tour de l'horloge aussi, en face, oui. Est juste. Mais. La coupole de la basilique et le palais des Doges sont faux.
Alors, il y a les chevaux, non?
Oui, il y a les chevaux, ils sont là. Hein, ils sont là. Mais ce n'est pas du tout les dômes de...
Mais ça change en plus.
Est-ce qu'ils ont été reconstruits? Je crois pas, parce que là, les bouts de Venise, de Saint-Marc, okay. Et le palais des Doges est beaucoup plus ancien, il a jamais bougé. Hein. Alors si, il y a cette façade-là, mais les arcades ne sont pas du tout comme ça, et les colonnades non plus. Donc c'est sans doute un travail de reconstitution d'atelier après une crise de Noël ou des choses comme ça. Il n'y a pas de photos, donc on peut imaginer qu'ils sont passés par là. Et il y a la grande, sans doute le Bucentaure, la grande galère ici du Doge. Celle-ci, ça va juste. Alors vous avez vu, il y a beaucoup hein, qui sont marqués. Alors c'est sans doute des commandes. Un ciel menaçant et encore toujours les mêmes couleurs. Et là, un grouillement magnifique. Alors Venise, c'est vraiment aussi grand port, une ouverture aussi vers l'Orient, et une part de rêve d'abord la ville elle-même, ce qu'elle représente au niveau économique, architectural. Alors là, regardez le génie quand même de ces artistes, la lumière qui réussit à faire presque le campanile devient presque fantomatique, le rouge. Il y a aussi ce qui est assez étrange dans la peinture, c'est des parties inachevées, il y a des choses qui sont extrêmement précises, et puis comme s'il y avait des taches ou des choses qui sont non dites, des vides, des choses presque abandonné ou non fini, une sorte de liberté, de fantaisie, hein, qui est aussi très moderne, qui nous semble très moderne. Hein. Ça, c'est avec en même temps une composition remarquable. Parce que si on regarde bien les équilibres de masse, de couleurs, là, sont parfaitement réussis et très dosés. Avec aussi des effets de déconstruction, on peut dire, du réel, et le reflet. Le bateau, justement, qui semble, dans lequel vous avez les nuages aussi, les reflets du ciel. Donc là aussi, des moments où on perd le repère, hein, par exemple dans le reflet. Alors ceux-ci sont vraiment très réussis. Et là encore, ça s'est inspiré de Venise, c'est une place, mais une fantaisie. Hein, alors attendez, je me demande si c'est pas... C'est pas en France, ça. Je crois qu'il y avait une petite... Si. Non. Donc, vous avez vu comment il dit en anglais, c'est François de Nommé, Cold Monsou Desiderio. Donc, parfois c'est lui, parfois c'est les deux, etc. Alors là, on est un petit peu dans, toujours, alors, inspiré par leur version du Palais des Doges, etc. Alors, peintre des villes, alors ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est peintre des villes. Peintre des villes, on n'a pas vu beaucoup de rues jusqu'à présent. On voit des temples, on voit des églises dans la peinture. On voit des bâtiments comme ça, mais des rues avec les lumières traversant comme ça, l'orthogonalité, la construction comme ça d'une sorte de un paysage minéral, ça c'est assez original chez eux. Que qu'ils soient en ruine ou pas, vous avez un paysage minéral, pas un paysage naturel, et qui est pictural aussi. Hein, on peut peindre. Alors ça, c'est sans doute ça c'est attribué donc à nommé Barra, etc. Donc, ou alors, on voit qu'ils ont une petite influence, mais ce que je vous montrais avant, c'est qu'en fait, ils ne venaient pas de nulle part. C'est qu'il y avait aussi pas mal d'artistes allemands qui avaient anticipé ça. Vraisemblablement, là, hein, on est dans quelque chose, soit de nommé et Barra dans leur jeunesse, soit effectivement.
Est-ce qu'on est arrivé à vraiment attribuer avec précision les œuvres des uns des autres, ou bien il y a encore des doutes?
Je crois que le corpus, comme on dit, d'abord, les œuvres, elles sont un peu partout. Elles ne sont pas toujours signées, et il n'y a pas de grand spécialiste de ça, parce que c'est des peintres un petit peu étranges et mineurs. Peut-être que je ferai offense à quelqu'un qui se serait vraiment penché là-dessus, mais c'est ce que je veux dire. En général, Barra, c'est plus précis, et nommé, c'est plus fantastique. Ça, par exemple, je crois que c'est plutôt Barra. Alors, magnifique structure d'une église. Alors, c'est aussi drôle de voir comment ce sont des artistes qui réfléchissent à ce que doit être une église, ou ce que pourrait être une église, au moment où, jusque-là, l'architecture même des églises est questionnée. Les protestants vident systématiquement les églises, et les catholiques baroques les remplissent à tout prix d'une multitude de choses pour les rendre fantastiques, exceptionnelles, dans l'excès, le débordement. Et là, vous avez des gens qui se questionnent vraiment sur l'architecture. Que doit être l'architecture? Pas uniquement dans la représentation, mais même, qu'est-ce que ça peut être, hein? Et une sorte de mélancolie sur ce paysage totalement artificiel, puisque c'est un paysage de pierre, construit par les humains, qui en même temps permet de construire des lumières, construire des espaces extraordinaires. Donc, il y a une sorte de nostalgie des belles audaces architecturales. Hein? Quelque chose qui se perd, parce que, d'abord, en plus, si vous regardez les églises baroques, souvent de l'extérieur, c'est un peu des boîtes. C'est surtout à l'intérieur qu'elles sont intéressantes. Et puis les protestants, ils vont faire des temples très austères, et puis les églises, ils vont les vider. Donc, il y a comme une sorte de nostalgie aussi, presque du gothique, des cathédrales, où là, il y avait encore un esprit positif. Hein? Ça, c'est assez clair. Là, ça donne une structure absolument remarquable. Là encore, ça, je crois que c'est Barra. Hein. Toute celle-ci, c'est Barra. Attendez, je vérifie. Ah ben non, c'est nommé. C'est nommé. Donc, vous voyez les attributions. Superbe de modeler, de dégrader. Mais c'est rêvé. C'est qu'il n'y a aucune église comme ça. Il n'y a aucune église comme ça qui combine à la fois des pilastres baroques, des arcs romans et un cœur gothique. Hein. Et vous avez aussi là une sorte de nostalgie de la grandeur de là encore, donc vous avez beaucoup. Alors ça, c'est drôle de faire une peinture dont le sujet, c'est l'architecture. Et l'architecture, souvent, presque vide, il n'y a quasiment plus personne. Là aussi, c'est un peu déserté. Il n'y a pas de messe, il n'y a plus de curé, c'est presque des églises pour rêver. Là aussi, puis rêver à qui, rêver à quoi? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'on rêve à la lumière? Est-ce qu'on rêve aux statues? Est-ce qu'il faut s'en aller? Est-ce qu'il faut rester là? Vous avez aussi un questionnement pictural qui est remarquable, si je reviens ici, notamment pour celle-ci. C'est l'idée de la surface et de la profondeur. Parce que vous avez une affirmation du plan qui est remarquable, frontale, avec des rythmes et des travées, orthogonalité ici, vraiment, sur la surface de la voie. Et puis, vous avez des percées qui sont, en plus, qui ne communiquent pas entre elles, comme s'il y avait plusieurs entrées, hein, à droite-gauche, et même latérales, avec une orthogonalité, donc construction d'un espace ici, remarquable, mais picturalement parlant. Là encore. Alors là, c'est plus classique et moins lyrique, hein, avec le damier, donc on peut imaginer que c'est une peinture plus ancienne. Plus ancienne, mais c'est quand même imaginaire, ça. Ça ne correspond à aucun espace.
Pas beaucoup de croix.
Ah ben non, parce que c'est là manifeste. Où on s'échappe un petit peu, justement, du religieux des cléricaux, on va dire, donc, qu'ils soient protestants ou catholiques, pour aller peut-être à quelque chose de plus métaphysique. Hein. Ça, c'est assez clair que chez eux, on n'est pas du tout dans le. Les scènes religieuses sont relatives, quand elles sont juste citées, mais ne sont pas du tout centrales. Et en général, vous avez raison, dans ces bâtiments, on voit quasiment aucun prêtre, quel qu'il soit. Donc c'est aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on peut trouver qui est une influence de certaines religions, de certaines visions théologiques du XVIIe siècle, c'est la question aussi de la grâce, un petit peu. Chez les protestants, il n'y a pas d'intermédiaire. chez les gens comme Augustin ou chez les jansénistes, c'est un rapport direct à Dieu aussi. Il y a cette idée aussi que, voilà, c'est un peu, on est tout seul aussi, devant Dieu. Et donc cette idée, c'est qu'il n'y a pas non plus de... Donc, par contre, l'Église reste quand même un lieu privilégié, mais elle est vidée du rituel, vidée de tout ça. Ça, c'est pas mal non plus, hein, comme vision. Alors là, encore des églises, ça y en a plein, alors je ne sais pas où est ça. Là, toujours des places imaginaires. Là, on est vraiment dans du baroque, puisque vous avez le roi qui s'agenouille, effectivement. Alors là, c'est drôle, parce que vous avez une vraie citation d'un art qui lui est contemporain. La torsade du baldaquin de Saint-Pierre, que l'on retrouve ici, c'est des colonnes torsadées, c'est totalement contemporain de Desiderio. Je dis Desiderio. Hein, puisque, donc, vous avez, donc, c'est quelqu'un qui fait référence quand même au passé, aux ruines, aux fantastiques, etc. Mais si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de détails, il s'inscrit dans son actualité. Que ce soit Venise, que ce soit Rome, que ce soit Naples, ou même plein de citations de certaines architectures baroques, c'est très contemporain. Donc c'est marrant aussi de voir ce clin d'œil qu'il fait à son actualité. Et ça, c'est une des seules extérieures. C'est une des seules extérieures assez étranges, une sorte d'église, de grue, on ne sait pas ce que c'est, construction avec une vision extérieure. Et ça, c'est Didier Barra. Mais c'est vraisemblablement une œuvre de jeunesse. Alors, alors maintenant, je vous ai montré, alors, j'en ai montré un peu beaucoup, parce que j'étais tellement content d'en trouver, que j'en ai mis pas mal, pour avoir une vision aussi un petit peu, vous voyez que c'est un corpus qui est assez très homogène. Très homogène, quelques variations, et qui est assez riche. Une fois qu'on a ça, ça permet de revoir certains artistes antérieurs, parfois, ou postérieurs, et de voir qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls non plus. Si Barra et Nommé se mettent ensemble, en fait, ils correspondent aussi à un courant artistique mineur, mais qui est présent chez pas mal d'artistes. Hein. Par exemple, Gréco, qui est plus ancien. Gréco, donc, crétois, qui arrive à Venise, et qui, de Venise, arrive en Espagne. L'Espagne de la Reconquête, etc. Gréco, c'est quelqu'un qui déconstruit systématiquement l'architecture. Défait, et quand il arrive en Espagne, effectivement, là c'est quelqu'un qui justement va détruire au bénéfice d'une sorte de mysticisme qu'il va traduire par des lumières incohérentes. Une des premières œuvres de Gréco, alors Gréco d'ailleurs venait de la tradition byzantine, qui était très forte, dans laquelle l'architecture dans la peinture n'a aucune importance, parce que ce sont des fonds dorés. Donc on est dans une peinture qui est totalement irrationnelle. Quand il arrive à Venise, la seule chose qui l'intéresse, c'est justement l'irrationalité ou les excès de Tintoret ou de Titien. Et Gréco aussi, je ne sais pas si vous avez raconté ça, c'est quelqu'un qui est tellement persuadé qu'il apporte un art nouveau que quand il voit le jugement dernier de Michel-Ange, il arrive à Rome, le jugement dernier de Michel-Ange qui faisait scandale en 1540 à peu près, il est fini, 1540, donc là on est au XVIe siècle. Hein. Et Gréco dit, mais moi, s'il vous gêne le jugement dernier, moi, je repeins. Hein, donc Gréco pensait qu'il pouvait... il avait la peine d'être peint, mais Gréco dit, bon, je vous le repeins. Et on pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on lui dit, écoute, petit gars, t'es bien, mais... on va voir en Espagne, parce que là-bas, la peinture, il ne connaît pas bien. C'est pas la tradition, ils ont besoin de fous furieux pour la reconquête contre l'islam. Donc Gréco arrive effectivement dans l'Espagne de la reconquête, où il n'y a pas de tradition picturale chrétienne, très peu. Hein, et donc il va donner libre cours à cette espèce de mysticisme un peu incandescent que l'on voit déjà ici, où d'ailleurs les corps sont déformés, les lumières sont totalement improbables, et ça c'est assez clair. Alors vous voyez, regardez les peintures de Gréco ici, vous retrouvez cette espèce de lumière incohérente, des lumières d'incendie, des éclaboussures de blanc, des couleurs comme ça et des espaces un peu fantastiques. On ne sait pas si ce sont des grottes, des gueules, des bouches, des dents. On ne sait pas très bien où on est. C'est assez proche, en fait. C'est assez proche, mais c'est plus ancien. C'est presque 100 ans avant Desiderio et Barra. Hein. Donc, en fait, il y a quelque chose aussi. Mais Gréco travaillait dans un monde en crise. C'est que la peinture de Gréco, elle a été acceptée dans l'Espagne de la Reconquête, dans l'Espagne des violences religieuses, dans l'Espagne contre les Juifs, contre les musulmans, contre les hérétiques. Entre guillemets, quel qu'il soit, catholique et ça, la violence de l'Espagne aussi contre les peuples colonisés. Donc vous avez ici une expression d'une religion qui n'est pas du tout rationnelle. Hein. Et là, regardez l'adoration ici des bergers, vous avez aussi des lumières improbables, une architecture qui se défait, une verticalité, on n'est pas du tout dans la description d'un paysage harmonieux, sage, etc. Donc Gréco, c'est au tout début du XVIIe siècle, on est quand même, en fait, quand je dis 100 ans, j'exagère, on n'est pas bête, on est quelques dizaines d'années avant, comme Desiderio Ibarra, mais vous voyez que ça correspond aussi à une crise de la représentation, mais parce qu'on est dans des mondes profondément en crise. Et là, l'anatomie aussi, comme on a vu tout à l'heure que l'anatomie et les corps humains étaient souvent un peu déformés, là, vous avez très bien aussi que Gréco, il va être... Voilà. Il est très juste au niveau de la musculature, hein, mais les proportions des corps sont très souvent disproportionnées, allongées. Autre chose, il y a chez Gréco aussi des points qui sont un peu communs, c'est parfois une très grande précision, puis parfois des taches de couleur, des choses comme ça qui ont l'air totalement libres, des constructions qui sont aussi totalement libres et décentrées. Hein. Ça, c'est strict. Moi, quand j'étais plus jeune, je détestais Gréco, je me souviens des rames. Galopé dans les Gréco, j'avais 17 ou 18 ans à Madrid, en disant « Waouh, c'est quoi, c'est une bandieuserie, hein ?» Et puis, plusieurs années après, je suis revenu voir, j'ai dit « Waouh, c'était une des plus belles peintures que j'avais vues dans le geste, dans la matière, dans la lumière, etc. » Donc, on évolue aussi. Alors, chez Gréco, vous avez aussi le noir et le blanc, qui sera du coup. Chez Gréco, vous avez quelque chose, par contre, vous avez des couleurs, c'est qu'on se rapproche des couleurs du vitrail, le bleu, le jaune et le rouge qui sont presque denses, et la verticalité, qui est comme si Gréco retrouvait l'art gothique. Et là encore, vous avez vu, là, les éclaboussements de couleurs, de contrastes lumineux sont absolument prodigieux. Et puis vous avez cette idée d'une violence de la révélation. La religion passe par une sorte de choc. Hein. C'est que vous avez le petit Jésus qui apparaît, là, ça éclabousse de couleurs, c'est un tout petit truc de rien du tout, mais il fait se renverser complètement ces personnages qui sont en train de chuter. Et vous voyez, l'architecture, c'est presque rien. Là aussi, comme si elle se défaisait. L'architecture, en fait, on est dans le siècle, c'est pas important. Là, avec Gréco, on est dans quelque chose qui doit être beaucoup plus profond dans le monde. D'ailleurs, dans Jésus, un des thèmes Gréco vient le plus, c'est la violence de Jésus. Jésus chassant les marchands du temple, c'est le moment de colère de Jésus, il s'apprête à fouetter, à chasser les marchands. Mais vous regardez l'architecture elle-même, on n'est pas loin des idées rionomées, c'est l'architecture presque fantomatique, blanches comme ça, qui sont un peu vidées, on ne sait même pas ce qu'elles tiennent, on ne sait pas où on est, des perspectives un peu bizarres, avec des personnages étranges, on ne sait pas ce qu'ils font, des sortes de sculptures, là aussi, qui évoquent un passé des vieilles idoles. Donc Gréco n'est pas du tout étranger à la culture de Nobel Bar. Alors, je vais maintenant vous montrer des peintres que je ne connaissais pas du tout, mais en cherchant sur... fouillant un petit peu, j'ai vu certains artistes beaucoup sur leur allemand, ça vient surtout des cultures effectivement germaniques ou flamandes, hein, on est plutôt dans l'espace Europe du Nord et de l'Est, donc des cultures qu'on connaît un petit peu moins, souvent on s'écarte du côté, on va dire, méditerranéen, de la lumière, de la Renaissance italienne, et en fait, ce sont les artistes qui ont pu inspirer Barra et Nommé, puisque il y a des points communs, d'abord dans les sujets, dans les paysages un peu fantomatiques ou imaginés, et voilà, alors là c'est de Gilles van Koenigsloo, alors C-O-N-I-N-X-L-2-O, Gilles de Koenigsloo, je ne sais pas ce que ça veut dire Koenigsloo, Koenigsloo, le petit lapin, mais elle ne bouge pas. Et là, vous avez les mythologies grecques, mais une sorte de paysage un peu imaginaire. Hein. Alors là, c'est un peu avant, hein. C'est un peu avant, donc c'est quelques dizaines d'années, c'est quelqu'un qui est né avant Nommé et Barra. Alors voilà encore Gilles van Koenigsloo avec le jugement de Paris. Mais vous avez des dispositifs qui sont relativement proches, des petits personnages au premier plan, sauf que là, on est dans la nature, pas dans la structure architecturale.
C'est un peu avant les impressionnistes.
Ah bah, oui, donc c'est le style. Mais vous avez, alors, l'influence de Bruegel, de Vatimir sur les dégradés atmosphériques, etc. Mais on n'est pas quand même dans une description climatique, comme Michel Bruegel précise. Hein. On est dans quelque chose d'un petit peu imaginaire et fantastique, comme par exemple ici dans cet arbre fantastique. Hein, cet arbre extraordinairement détaillé. Alors, si, par contre, au niveau de la représentation de l'espace un peu panoramique, il y a des points communs. Puis vous allez voir aussi qu'on va retrouver ça d'autres. Alors, ça c'était Konigsko. Alors, Getty Images, puisque j'ai piqué ça là-dessus. Regardez, par contre, donc c'est quelqu'un qui est antérieur à Barra et Nommé. C'est Peter Schubrock. Peter Schubrock. Alors là, vous voyez, on est vraiment... En plus, le thème, c'est la ville de Troyes. C'est l'incendie de Troyes. Et vous voyez que, finalement, les deux autres sont dans une continuité, parce que ça, c'est des artistes qui ont près 15 ou 20 ans de plus qu'eux. Nommé et Barra sont surtout actifs vers 1670-1680. Et là, on voit que c'est des artistes un peu plus récents. Donc, Schubrock. Là, vous avez encore Schubrock, Sodome et Gomorre. Donc, vous voyez que ce sont en fait des thèmes, alors en tout cas, en plein XVIIe siècle, c'est cohérent, que ça soit Troyes ou Sodome et Gomorre, c'est des destructions de cités. Hein, et métaphoriquement, évidemment, c'est aussi les incendies et les crises, parce que Schubrock est précédent, comme les autres, on est dans des régions aussi qui sont extrêmement troublées. En France, finalement, il y a la Saint-Barthélemy, mais très vite, les choses vont se redonner. Et ce qui va dominer en France, c'est pas la tragédie comme ça, c'est le classicisme. Si on va trouver de l'ordre. Hein, c'est Saint, Lorrain, etc. Donc vous allez voir, le territoire français va très vite reprendre les rênes, même par rapport aux guerres de religion. Hein, parce que la centralité du pouvoir va permettre d'ordonner cela. Mais dans les régions Germanie, Lorraine, justement, Hollande, etc., tous les pouvoirs locaux, le fait que ça soit plus décentralisé, pour que ça éclate beaucoup plus. Ça éclate beaucoup plus, donc il y a toujours des violences entre eux. Et les cités ont de l'importance aussi. Les villes, donc cette idée des villes qui se détruisent, puisque c'est beaucoup plus les territoires de l'Est de l'Europe, Nord et Est de l'Europe, c'est beaucoup plus au niveau de la... Il n'y a pas la centralité française, hein, c'est au contraire des régions, des duchés, des villes, en Hollande. Donc l'idée d'une ville qui se détruit, des villes qui se détruisent, c'est aussi un peu plus clair, cette idée-là. Donc les incendies, brûlures, ah, par contre, il n'y a peut-être pas le génie lumineux des deux qui les intéresse. Là, alors lui, c'est quelqu'un d'autre, ça, ou c'est toujours... Ah non, c'est toujours Schubrock. C'est toujours Schubrock. Donc là, par contre, on est dans quelque chose qui est un peu plus beau, mais il n'y a peut-être pas le blanc. Hein, on n'exploite peut-être pas suffisamment les ombres propres, les ombres portées, les différences.
Mais on est parce que c'est la nuit.
Oui, mais quand on a vu avec les autres jouer plus sur, il y avait plus de modelés, de dégradés.
Là, c'est saturé, oui, bien sûr.
Il y a plus de personnages. On est plus dans la narration ici, hein, avec aussi etc. Alors, on va voir tout ça. Là, on est dans quelque chose qui est beau, c'est alors l'enlèvement de. Est-ce que c'est Perséphone? Juno et Poséidon. Bon, voilà, tout, ça peut être n'importe quel enlèvement. Hein. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant, toujours. Donc c'est très proche, architecture qui se défaut. Donc, alors il y en a plusieurs, hein, des artistes comme ça. Lui, par exemple, ah ben, c'est toujours Schubrock. Là, alors là, il est dans un paradoxe intéressant qu'on va trouver chez... C'est la question du dessin et de la lumière. Parce que c'est très difficile de faire une multitude de petits personnages précis dans le dessin et en même temps de multiplier les jeux de couleurs et de... etc. Parce que si vous êtes plein de petits personnages, il faudrait qu'ils aient chacun leur individualité de couleur et de lumière. Et donc là, on a presque l'impression qu'il abandonne la peinture pour dessiner des gens sur des fonds sombres avec quelques touches de couleur. C'est un paradoxe qu'on retrouvera chez Gustave Moreau plus tard. Ouais. Deux siècles plus tard, Gustave Moreau il est fasciné par le dessin précis et en même temps par les couleurs, les lumières, les matières. Alors, le mariage des deux, on l'avait vu il y a quelques années, le mariage des deux est presque... schizophrénique. Et là, on a presque cette idée-là. On ne sait pas s'il peut y parfois les grands effets de mode des dégradés et comment introduire les groupes de personnages là-dedans. Alors, je dis ça parce qu'en fait, c'est un problème qui est posé théoriquement au XVIIe siècle, avec la métaphore de la grappe de raisin. Comment peindre une grappe de raisin? Parce que chaque petite sphère a son autonomie, mais elle fait partie quand même d'un ensemble. Donc la grappe a sa propre ombre globale, si on prend un volume global. En même temps, chaque petite sphère a son propre reflet, sa propre ombre et son ombre portée. Et sa propre transparence. Donc cette idée de peindre un volume complexe fait de plusieurs micro-volumes, c'est valable pour une grappe de raisin, mais c'est valable pour une foule. Donc c'est le fond pile au XVIIe siècle en France. C'est le paradigme de la grappe de raisin qui est écrit texto par François Lebrun, qui est un grand peintre classique français, etc. Et que Poussin, justement, va reprendre. Nicolas Poussin réussit justement à faire des scènes de groupe comme ça, avec des sujets qui sont proches, l'enlèvement des Sabines, la manie en désert, etc.
Juxtaposition de vers le haut,
oui,
deux espaces complètement différents.
Totalement différents, effectivement.
Aucune logique entre.
Oui, non, non. Alors, soit ils sont sur une colline, mais même pas de logique de lumière, on ne sait pas si ce sont des gouffres, si ce sont des nuages, si ce sont des nuées, etc. Alors, c'est assez marrant parce que vous parlez du film sur Turner, là, Turner sera confronté au même problème. La peinture, les lumières, le détail, Turner, c'est aussi quelqu'un qui embrase des trucs, des incendies, un sortie de l'ombre, etc., les embrasements, et puis en même temps, c'est un très grand graveur et dessinateur très précis. Donc, en fait, vous avez l'intérêt aussi de cette période-là, c'est des artistes qui se libèrent aussi, puisqu'il n'y a plus tellement de normes, ni au niveau religieux, ni au niveau de la peinture, ni au niveau esthétique. Il y a une diversité des commandes. On avait vu que ça avec le maniérisme, donc vous avez des artistes qui explorent aussi. Et ça, c'est pas mal, parce que justement, ces explorations sont purement picturales. Alors ça c'est... Alors là, leur nom, Swedenborg. Jacob Isaac de Swedenborg. Et en fait, on retrouve après la même chose. Donc en fait, c'est clair que c'est un genre. C'est un genre, peinture imaginaire, peinture d'incendie, peinture de catastrophe, et que finalement, nommer Barra Desiderio sont dans cette tradition. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que c'est surtout eux qu'on connaît, alors que ce sont les derniers de cette série. Donc, pourquoi, par contre, ce sont-ils sont plus connus? Je ne sais pas. Alors là, vous avez des espèces de gueules ouvertes fantastiques. Alors là, on retrouve les trucs avec les nez en contre-plongée, les oreilles et une bouche ouverte des enfers. Hein. Et nez en chise, alors là, il faut les trouver. Brûlement, saturation, incendie, architecture, pompe, fragilité, chute, etc., etc. Là, toujours Swedenborg, les feux, pas de sujet, autre, je ne sais pas. Je vais un peu plus vite parce que ça, là, c'est ce qu'on a vu du moment de l'essai de notre peinture. Celui-là, chute de Troie de toujours Swedenborg. Toujours aîné en chise au premier plan, les plus rouges. Celle-ci, alors, je ne sais pas de qui elle est. Il n'y a pas de nom. C'est toujours l'enfer, porte de l'enfer. Là, alors lui, il s'appelle Alzheimer. Alzheimer et Adam. Son prénom, c'est Adam. Donc, mais celui-ci est un peu plus classique dans la question du maniérisme, vous voyez, mais il combine quelque chose qui fait penser à un maniérisme italien au premier plan, et là, quelque chose d'un peu fantastique.
Tout ça, c'était des œuvres de commande.
Alors, sans doute, ça c'est le début. Ce sont des commandes, mais comme on le voit très clairement au XVIIe siècle, c'est des commandes, ça fait des commandes de milieu privé. La commande de milieu privé, surtout dans ces pays-là, c'est plus important qu'en France. Parce qu'il y a plus de richesses partagées, hein, que ce soit Hollande, Pays de l'Est, etc. C'est ce que j'ai des cités, les marchands, les commerçants, etc., les princes locaux. Et puis vous avez aussi, avec les crises religieuses, plus qu'en France, vous aviez des sortes de confréries. Donc déjà, Jérôme Bosch faisait partie d'une confrérie hein, avec une vision un petit peu, une transcription de la religion qui était un peu particulière. Donc, Peter Bruegel, c'est aussi des sortes de... C'est pas des commandes, mais c'est des accords et des bandes d'amis, hein, enfin, chercheurs, des penseurs, des philosophes. Et donc, c'était des peintures qui étaient faites pour un petit cercle, en fait. Dans un cercle de c'est... Alors qu'on est habitué avec la France et l'Italie à des commandes soit royales, soit religieuses. Il faut attendre très longtemps en France à avoir vraiment des commandes privées, hein, des commandes singulières. Mais Hollande, Pays-Bas, pays germanophones, etc., c'est plus diversifié, y compris pour des questions économiques et aussi religieuses. Il y a un éclatement, le pouvoir n'est pas centré. Donc ça peut être aussi des sortes de, pas des sectes, mais des sortes de petits clubs qui ont un peu une vision des communautés qui expriment et qui recommandent à un peintre, un riche marchand qui est un peu éclairé, il discute avec son peintre et il se chauffe la tête, on peut imaginer, puis tiens, je t'achète une peinture, tu me fais une chute de trois, etc. Donc on peut imaginer que c'est comme ça, mais c'est pas pour être dans des églises, c'est pas non plus vraiment dans des palais. Là, vous avez encore une chute de trois. Là, est-ce que c'est toujours Alzheimer ?
Oui, c'est lui.
Pour Alzheimer, on a déjà vu. Alors, pour changer, puis pour terminer, vous avez le contemporain totalement opposé. C'est Peter Sandreda. Puis je vais terminer ça. Peter Sandreda. S-A-N-R-E-D-A-N. Peter Sandreda, c'est exactement le contemporain de nommer les Desiderio, Barra, etc. Et vous voyez bien qu'il y a aussi cette fois-ci des églises. Totalement vidé, mais en même temps totalement pur, calme, sereine. Là, on est dans quelque chose, et bizarrement, c'est la voûte qui est sombre. Hein, et alors là, le sol, au contraire, est rassurant. On a envie de se promener, calme, il n'y a pas d'incendie, une belle lumière du jour. Et le dépouillement de l'église proposé par les protestants permet de profiter beaucoup plus de la lumière. C'est comme sculpter une lumière douce, une lumière âme qui vient se répartir comme ça, et en même temps, révéler la beauté de l'édifice. Comme si finalement les églises catholiques étaient saturées, gâchées, hein, leur propre sujet, leur propre origine. Alors Peter Sandreda, il peint les églises dépouillées réellement. Alors lui, il peint des vraies églises. Et il va essayer, alors c'est bizarre, parce que au moment où on vide les églises de leur peinture, on lui va peindre des églises vides de leur peinture. C'est aussi quelque chose qui est un peu drôle. Mais c'est l'occasion de mettre en scène les surfaces, les volumes avec un minimalisme. Là, on se rapproche un petit peu de Vermeer. À nouveau, de lumière, du vide, du repos. Au lieu de forcer dans l'imaginaire, on accepte le vide. Hein, au lieu d'en avoir peur, hein, eh bien, au contraire, on accepte cette espèce de... Et là, les corps que vous voyez sont des corps qui ne sont pas dans l'agitation, mais en fait, le sol est parfaitement ordonné, il y a un petit chien, etc. Alors, Sandreda, c'est quelqu'un qui est un peu redécouvert progressivement, hein, qui, là aussi, ses œuvres sont un peu étalées partout, parce que c'est un paradoxe aussi, hein, quelqu'un qui peint des églises au moment où on les a vidées de leur peinture. Et dans d'autres, alors, à chaque fois, il y a des cadrages stupéfiants, hein, on voit aussi qu'il y a un choix vraiment pour être dans le lieu, à des endroits où justement le plan et le volume vont être traités, vous avez des surfaces, il n'y a pas du tout d'extérieur, et au contraire, un vide total, c'est jamais pendant les cérémonies, c'est avant, après, bon, profiter. Alors il y a la solitude, mais on n'est plus dans l'inquiétude, on est dans une harmonie. Et regardez même le petit personnage qui est en haut. Alors, j'ai un ami, un ancien professeur du lycée, Marie-Anne Marcolette, c'est son dada, et il a un livre qui devrait sortir sur Sandreda. Et on pense d'ailleurs aussi que les personnages que l'on voit ont été rajoutés par la suite, parce qu'au début, ces églises étaient entièrement vides. Et c'est autre chose, c'est les commanditaires, etc. On dit, oh, il faut faire quelque chose, je peux pas mettre quelques petits personnages. Donc les petits personnages sont souvent rajoutés. Alors, notre ami Marc, là, il a des théories un peu complexes, il relie ça à une mystique réno-flamande. Donc, c'est lié à une religion, une vision de la religion typique de cette région aussi, et je le laisse le développer. Et là, vous voyez ce que je vous disais sur la surface, le flanc aussi. Hein. Mais c'est intéressant de comparer les deux. Hein. Barra ou Sandreda, on pourrait les rapprocher, hein, les structures frontales. Et l'idée quand même du bâtiment, de l'architecture, de qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment est-ce que ça peut nous amener au-delà, hein, nous rassurer ou nous inquiéter. C'est assez clair. Là, on est vraiment dans des peintures d'un modernisme remarquable. Et je vais terminer la première fois. C'est contemporain. Si les plafonds ne sont pas baroques, italiens. Alors là, on est dans autre chose. Mais ben, je vous les montre. Alors là, 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 là. Alors si on est dans un certain de délire, alors vers le ciel. C'est quelque part, on quitte le sol, on quitte la terre et on s'envole. Et le corps se dilate dans l'espace. Une sorte de ravissement au sens strict, le corps est emporté, hein, ce qui est typique de tous les plafonds peints baroques, on trouve ça quasiment que en Italie. Là, c'est vraiment l'art de la contre-réforme. Pour faire simple, le Concile de Trente, traîne en Italie, a duré très longtemps, et ensuite a établi des règles, et en gros a dit, bah, les protestants, ils nous embêtent, ils sont austères, ils sont pas rigolos, il pense que, alors que pour nous, rien n'est trop beau pour Dieu, il n'y a pas... Il n'y a pas de limite. Dans, au contraire, tout ce qu'on peut faire de plus beau, c'est donner notre morceau de bravoure, l'or, etc. Et Dieu est amour, Dieu est sentiment, Dieu est émotion, donc Dieu nous prospère. Donc il faut y aller à fond dans cette espèce de, d'exubérance religieuse. Et il y a aussi une idée spatiale là-dedans qui est très claire, c'est puisque si l'univers est infini, est ouvert, ben c'est que Dieu l'a bien voulu, et donc c'est Dieu cet infini. Donc pour comprendre Dieu, mais il faut se perdre dans l'infini. Il faut capter le vide. Pour capter le vide, il y a deux solutions, trois solutions. Il y a la lumière qui remplit tout l'espace. Il y a le souffle qui remplit l'espace. Et vous avez aussi l'agitation. Et alors ça va se traduire par des choses qui vont se gonfler, se dilater. Les drapés, les nuages et la lumière. Donc le corps est traversé par l'action, par la lumière, par l'air. Et donc vous avez des nuages, et l'architecture qui est enfermée un petit peu trop, qui établissait un dialogue trop dualiste, eh bien l'architecture, paf, il faut qu'elle éclate complètement. Dans l'architecture baroque, elle éclate de l'intérieur, et elle se boursouffe aussi. Elle perd ses frontières, parce que les frontières, c'est ce qui enferme. Donc le baroque, c'est la dilatation. La dilatation de tout. Et là, d'ailleurs, on ne sait plus où on est. Là, vous avez des vraies fenêtres, mais où s'arrête et où commence le vrai plafond, on est dans le trompe-l'œil, on est perdu par l'essence. Alors, je reviendrai un petit peu plus précisément là-dessus, puisque là, j'ai pas tout à fait le temps, mais et puis je terminerai avec Lorrain, puisque, voilà. Donc, normalement, la prochaine fois, on doit faire ça. Ah, puis j'ai encore d'autres trucs autour. Et puis, on devrait entamer... Ah, ben, l'architecture, je oui. Bon, donc c'était lié en fait la question de l'architecture baroque, on l'aborde dans le prochain sujet. Donc en fait, c'est normal que je vous parle. En fait, c'était prévu, mais j'ai oublié.
La transition, c'est intéressant. C'est les...
Ah, oui, oui, ça c'est. Oui, oui. Donc c'est le vendredi.
Ah, pardon, je pense que c'est.
Oui,
c'est
9 novembre. Voilà. Eh bien, bonnes vacances de printemps.
Oui,
ça n'est pas de printemps. On y est quasiment.
Ah, bon.